Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 25 de la saison 4. Je me suis posé la question de savoir si vous auriez l'envie d'écouter un épisode qui traitait de la séparation. Parce qu'il ne faut pas se mentir, ce n'est évidemment pas ce que l'on envisage quand on choisit de construire une famille à deux parents. Et puis il y a eu cet épisode de début d'année, que je n'ai pas publié finalement, et pour lequel j'ai sollicité votre compréhension et votre avis sur ce thème. Vous avez été unanime. Pour vous, il fallait le traiter, dans tous ses aspects, parce que personne n'est immunisé. Stéphanie est venue vers moi et m'a dit « Si tu veux t'emparer de ce sujet, j'en suis. » Alors je ne vais pas vous vendre que l'on peut se préparer à une séparation et qu'ainsi elle est moins douloureuse, mais clairement, quand on se retrouve confronté à cette situation, avoir des témoignages est salvateur. Stéphanie s'est séparée de Laetitia il y a un peu plus de 18 mois. Ce n'était pas une séparation d'un commun accord. Elle ne l'a pas vue venir et l'a subie de plein fouet, sans pouvoir s'y opposer. La décision de Laetitia était réfléchie et irrévocable. Alors elle nous raconte comment, 18 mois plus tard, elle a réussi à se relever, s'adapter, se transformer pour survivre à l'épreuve la plus difficile que la vie ait mise sur sa route. Sa ressource ? Leur fille Héloïse. Elle a dû se débattre avec ses émotions, adapter sa vie à une nouvelle organisation et à une garde alternée, changer de lieu de vie et faire des deuils successifs. Mais elle a relevé la partie la plus difficile du challenge, préserver sa fille. Dans une séparation comme dans la parentalité, il n'y a hélas pas de mode d'emploi. Chacun fait de son mieux avec ses capacités du moment. Alors quand 18 mois plus tard, on relève la tête et qu'on regarde le chemin parcouru, on peut se féliciter d'être une warrior. Stéphanie, tu es une warrior, je te remercie de ta confiance. Je vous laisse découvrir l'histoire de Stéphanie et d'Héloïse et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphanie.
Salut.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Je mentirais si je disais qu'on ne se connaît pas, un petit peu plus intimement que juste via cet enregistrement. Aujourd'hui, je suis venue vers toi, enfin plus exactement, tu es venue vers moi initialement en me disant « Écoute, si ce sujet-là te tente, si tu veux qu'on s'en empare, je suis avec toi. » Et clairement, oui, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui est un sujet qu'il faut traiter et pour lequel je pense qu'il faudra peut-être plus d'un enregistrement parce que c'est assez propre à chacun. Aujourd'hui, on va parler de séparation.
Exactement.
Et est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Parce qu'avant de parler séparation, on va quand même raconter votre histoire. Est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, je m'appelle Stéphanie Chartier. Je pense que peut-être certaines personnes me connaissent sous l'égide d'auteur des livres de la petite Julie. J'ai 44 ans, une petite fille qui s'appelle Héloïse. J'étais mariée avec Laetitia et je suis professionnellement à mon compte en tant que consultante en communication. Bon, je suis évidemment plein d'autres choses, mais voilà. ça peut résumer peut-être les choses.
C'est vrai qu'on te connaît sous effectivement l'égide d'auteur, puisque tu es donc l'auteur et l'éditrice des albums de La Petite Julie. Donc, tu en as sorti 4, hein, je crois, actuellement.
Tout à fait.
Ouais. Voilà. Qui sont des albums qui traitent de l'histoire de La Petite Julie qui a deux mamans.
C'est ça, tout à fait. Oui, qui traite. Je voulais. En fait, le constat était de voir qu'en fait tous les albums pour enfants traitaient souvent du sujet de l'homoparentalité, et finalement c'est je trouve que c'est depuis peu que c'est en train de s'ouvrir, bon, ce qui est très bien, hein, parce que il y a un boulevard au niveau de l'édition LGBT, mais donc en fait je voulais faire un truc genre un truc banal, parce qu'en fait nos vies sont pas plus extraordinaires, elles le sont, mais je veux dire, elles sont pas plus extraordinaires que des couples hétéros, quelque part, avec enfants. Et en fait, moi, je voulais traiter du sujet. Bah oui, en fait, La Petite Julie, c'est une petite fille qui vit des choses du quotidien, et le truc, c'est qu'effectivement, elle a deux mamans, et puis c'est pas le sujet.
Voilà, tu n'en fais pas le sujet. Et c'est exactement ce qu'on recherche dans l'intégralité des livres pour enfants et même pour adultes, hein, j'ai envie de dire, qu'on a envie de trouver pour pouvoir véhiculer un petit peu. Visibiliser nos familles, que nos familles deviennent moins extraordinaires, plus ordinaires.
Tout à fait, exactement, plus ordinaires.
Voilà.
C'est ça.
Et ces albums, ils sont plutôt destinés aux tout petits, c'est ça ?
Oui, je voulais vraiment faire un truc, parce que c'est pareil, je trouve qu'il n'y avait pas trop pour les tout petits. Mm-hmm. Donc oui, j'avais vraiment envie que ce soit des albums qui puissent être lus par les parents pour des enfants de... Je vois que ça marche à partir de 16 mois. Moi, je dis 18, mais ça marche à partir de 16 jusqu'à un grand maximum de 4 ans, parce que on peut toujours leur lire ces bouquins. Vers 4 ans, ils ont envie d'autre chose. Là, ils sont petits, pensés justement pour les petits. Assez condensés, peu de pages, peu de textes. C'est simplement pour être dans le panel des autres albums pour petits, quoi.
Oui, exactement. Pour en tout cas avoir une proposition qui propose.
Ouais, qui vient s'inscrire dans la diversité de nos familles. Parce qu'il y a, encore une fois, je vais me répéter, mais il n'y a pas des masses de choses, hein, vraiment.
Non. Mais c'est vrai que je trouve quand même qu'il y a une espèce de prise de pouvoir de la part de la communauté autour des livres pour les petits. Plus pour les petits que, là, je vois bien pour les enfants un peu plus grands, des romans qui commencent, ou des histoires un peu plus longues quand les enfants commencent à lire.
C'est vrai qu'entre 7, 10 ans, et même au-delà, je dirais même 12, oui, ça coince totalement, je suis d'accord. Là, mais c'est pareil, il y a encore, j'espère.
Non, mais j'ai confiance. Le fait est que cette prise de pouvoir, elle se fait depuis finalement pas si longtemps que ça, et que les enfants des personnes qui se lancent sont souvent petits. Donc, on répond au manque qu'on constate.
Alors, tu as tout à fait raison, parce que le point de départ, évidemment, c'est ma fille. Enfin, c'est la volonté de pouvoir lui raconter son histoire à travers des bouquins. On achetait beaucoup de bouquins, et c'était le constat de dire, bon, en fait... On les a tous.
Elle ne se reconnaît pas.
Ok, 1, 2, 3, 4, 5, ok, 7, 8, super. et ça a été ce constat-là. Alors évidemment, ma fille, elle grandit, mais oui, je suis d'accord avec toi, tout à fait. Donc, qui sait, peut-être qu'il y aura des gens qui vont avoir des enfants de... Peut-être que tu vas t'y mettre.
Joker.
D'accord. J'ai trop de trucs à faire.
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je n'ai pas des journées de 90 heures. J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais ça
c'est
va.
Vrai. Puis tu as un peu 4 enfants aussi.
Oui, voilà. Et bizarrement, ça remplit bien mes journées.
Et oui, c'est étrange.
Enfin, c'est étrange. Bon, allez, ne parlons pas de moi. Passons à ton histoire. Donc, même si on va traiter de la séparation, je pense qu'il est important que tu nous racontes, en fait, votre histoire, votre rencontre et ce qui, peut-être, ce qui a amené à votre séparation et comment on vit une séparation et comment on construit une séparation, finalement. Est-ce que tu peux me raconter tout ça?
Bien sûr que je peux te raconter tout ça. Alors, nous, on s'est rencontrés en 2013. On était déjà, entre guillemets, un peu vieille. on avait 34 ans et on s'est rencontrés en plus à travers Mythique.
Et oui. Ah oui.
Oui, 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 tout à fait. Mais en fait, on a très peu discuté. On a utilisé Mythique pour comme aujourd'hui finalement les applis
de contact,
c'est comme un support d'un lieu de rencontre virtuelle. Quoi. Donc on s'est tout de suite rencontrés et puis on s'est plu. Voilà, on regardait dans la même direction, on avait le même âge, et puis après voilà, on est donc au bout d'un certain temps sortis ensemble. Et on avait, donc comme je dis, on avait 34 ans, donc on a vécu nos deux premières années couple et tout ça. Mais on a très vite, évidemment, parlé de bébé.
Oui.
On savait que ça allait pas être simple. Mm-hmm. Et puis, il n'y avait pas encore la loi bioéthique, hein, puisqu'elle est récente.
Oui, tout à fait.
Il y avait ce truc de « il fallait se marier pour peut-être adopter ». Enfin, on savait qu'on devait aller à l'étranger, qu'en France, c'était pas du tout possible. Enfin, si, qu'on savait vaguement qu'il y avait certains gynécos qui faisaient les choses. Mais enfin, ça nous paraissait un peu genre quelque chose de complexe. Mm-hmm. Donc voilà, on a parlé bébé et on s'est dit « ok, on va se lancer », etc. Alors, du coup, je crois qu'on a commencé les essais en 2015. On a choisi, on a fait plouf plouf, on a choisi la Belgique. Parce qu'on se disait, d'accord, les Belges, c'est des gens cool.
Donc, ils boivent de la bière, ils mangent des frites, ils sont cool.
Oui, c'est cool. Alors, pas que les Espagnols ne le soient pas, hein, du tout, mais vous savez.
Il y a les tapas en Espagne. Et la sangria.
ouais, je sais pas, ça nous a parlé. Donc nous voilà loin de Bruxelles, mais on a été du côté de Gand.
D'accord.
Et parce qu'en fait, il y avait moins de files d'attente. Parce qu'à l'époque, ouais, en 2015, il y avait un an d'attente à Bruxelles.
D'accord. Ah oui.
Pour le premier rendez-vous.
En 2011, il y avait déjà 9 mois.
Ouais, donc voilà, donc pour le premier rendez-vous. Alors que Gand, en fait, on faisait une demande par écrit et en fait, on avait un rendez-vous un mois plus tard. Donc c'était super. Donc voilà. Ouais. Et alors on se disait, est-ce que la barrière de la langue, machin, puis en fait, pas du tout. Il parle un français tout à fait correct pour qu'on puisse. Et puis ils nous ont ouvert les bras, genre génialement. Moi, je me souviendrai comme si c'était hier. On est arrivé, la gynéco nous a dit bonjour. Nous ici, on aime les bébés. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, waouh.
Elle ramenait tout aux enfants et pas à la conception de la famille. Enfin,
oui,
pas
tout à fait. Bon, et puis ils sont hyper ouverts, vraiment. Enfin, la Belgique, c'est une ouverture d'esprit extraordinaire. Quoi.
La Belgique, ils te considèrent comme un couple infertile comme un autre.
Que l'infertilité tout à fait.
Soit sociale ou pas.
Oui, tout à fait. Et donc voilà, nous voilà parés pour faire nos essais. Alors nous, ça a été un peu difficile. Enfin, on a choisi que ce serait Laetitia qui porterait parce que moi j'ai de l'endométriose et en fait on a fait on a misé sur le bon cheval. Globalement.
Quand ça a un coup, tu fais pas trop d'essais dans le vide. Quoi.
Exactement. Et donc, on savait qu'à un moment, moi, j'aurais probablement plus de difficultés. Donc, voilà. Puis, ça avait un coup, comme tu dis. Mais le truc, c'est qu'en fait, je pense que ça nous a pas mal éprouvé parce qu'on a fait quand même 10 essais.
Waouh! Ah oui, c'est énorme.
Oui. Sur un an.
Ah ouais, quasi tous les mois, sauf les mois de fermeture, quoi.
Quasi tous les mois, et à un moment donné, Laetitia, elle a voulu faire une pause sur 2 mois, je crois, parce qu'effectivement, c'est toujours le truc, tu sais, tout le monde le sait, enfin tout le monde, les femmes qui font des essais comme ça, à un moment, tu n'es plus dans le « oh tiens, je suis enceinte », tu es dans l'attente, en fait, dans
un truc,
tu sais, tu as tout calculé, tu sais quand tu ovules, tu sais quand tu vas devoir… dans 15 jours faire ton test, donc en fait, peut-être, j'ai l'impression que la déception, elle est peut-être plus grande encore, tu vois, je ne sais pas,
mais en fait, tu mets un tel, enfin, tu t'investis tellement dans ces parcours, où en plus de ça, enfin, je veux dire, il y a une organisation de dingue qui en découle,
ouais, clairement.
Enfin, ça prend toute ta vie, quoi. Donc, un an d'essai où tu fais tous les mois, tu te rends en Belgique, tu dois t'organiser, adapter ton planning. Waouh, c'est intense.
Oui, oui, c'était chaud. Je pense que ça, on a eu cette chance d'être, elle et moi, parce qu'elle aussi, elle est consultante en communication freelance, donc cette chance de ça, parce que nous, habitant à côté de Genève, bah, on sautait dans un avion pour aller, enfin c'était un périple, hein, pour aller à Bruxelles, qui ensuite, on devait prendre le train, qui nous emmenait à Gand, enfin tout était timé. Truc de fou, on avait rendez-vous à 11h, ben voilà, c'était... Non, effectivement, je trouve qu'il y a un investissement financier, psychique, physique, voilà. Donc, 10 essais. Et puis, finalement, on a augmenté les doses la dernière fois, et puis il y avait 5 follicules.
Tous en insémination, hein, donc du coup.
Oui, tout en insémination.
5 follicules, ouf.
Oui. Et donc, en fait, la gynéco, elle a hésité.
Tu m'étonnes. Ah bon?
Voilà. Ouais, elle a hésité, mais elle a dit, bon, vous avez 37 ans, parce que là, on a... oui, oui, c'est ça. Non, on avait 36, mais elle a dit, vu votre âge, vu les statistiques, vu le nombre de fois qu'on a fait, là, il faut qu'on le fasse, mais je vous avoue que j'ai pas bien dormi la nuit dernière.
Ouais, bah oui, tu m'étonnes.
On l'a fait, et puis, bah, y a rien eu de plus que qu'Héloïse qui est arrivée.
D'accord. Donc, du coup, c'est sur ce coup-là que ça a pris.
C'est sur ce coup-là que ça a pris, exactement. Et on était au Pérou quand on a su qu'elle était enceinte.
Ah, mais c'est top.
Oui, voilà. Et puis, c'était un chouette moment et tout ça. Puis après, bon, la vie, quoi. Elle a été enceinte. Elle a accouché. Ma petite fille, elle a accouché il n'y a pas longtemps, donc de presque 6 ans, hein, puisqu'elle va avoir bientôt 6 ans, Héloïse. Mm-hmm. Et puis voilà. Et puis après, bah, comme tout parent, comme tout couple parental, on a fait notre truc de parent et la vie a continué. Et puis, je pense qu'on s'est un peu peut-être épuisé. Mm-hmm. Je ne sais pas.
Dans la PMA, tu veux dire ?
Je sais pas, je me pose encore certaines questions vis-à-vis de cette séparation. J'ai pas toutes les réponses, c'est jamais très très clair. On essaye de trouver des réponses à des choses qui sont peut-être pas. Enfin, peut-être on peut pas donner de réponse à tout, quoi. On peut
faire
que des suppositions et tout ça. Mais donc du coup, voilà, on a acheté une maison, Héloïse grandissait, etc. Et puis, octobre 2021. Le coup près est tombé. Laetitia a décidé de me quitter.
D'accord. C'est quelque chose que tu as vu venir, que tu as senti, ou pour toi, ça a été vraiment... Alors, t'as pris ça en pleine face.
J'ai pris ça en totale pleine face.
D'accord.
Vraiment. On a eu, du coup, une grande discussion, évidemment. Hein, mais je pense que je sais pas comment dire. Je pense qu'on avait en fait une vision différente des choses. Moi, je considérais qu'on était dans un creux parce qu'elle m'a dit à un moment donné, mais tu peux pas dire que ça va bien entre nous. Uh-huh. Et je lui ai dit non, effectivement, ça ne va pas bien entre nous. C'est vrai. Mais ceci dit, elle me dit comment tu l'as pas vu venir. Je lui dis je l'ai pas vu venir parce que moi je considérais que c'était un creux.
Ouais, que c'est...
Et que, enfin, tout dépend comment on regarde les choses. Est-ce que on peut regarder les choses genre, est-ce que c'est un creux et donc on s'accroche parce qu'effectivement oui ça va pas, etc. Ou est-ce qu'on met fin à quelque chose. Enfin, c'est des vraies questions. Mm-hmm. Et je sais toujours pas en fait si je sais toujours pas si voilà. Enfin, ce que je sais, c'est que si elle m'avait pas quitté, je serais encore avec elle.
Oui, toi tu serais pas partie parce que vous étiez dans
non. Maintenant, avec le recul, tu vois, maintenant, ça va faire presque un an et demi, hein, du coup, mm-hmm. On passe vite. Hein. Ouais. Avec le recul, je suis beaucoup mieux.
Oui.
C'est ça qui est assez dingue, en fait. Mm-hmm. Je pense que... Alors, peut-être je vais vite en besogne dans tes questions, mais je te raconte.
Non, on reviendra en arrière.
Ouais, je pense que des fois, on est dans un truc et puis peut-être l'habitude, peut-être la peur de plein de choses, j'en sais rien en fait. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu venir, ça c'est sûr. Mm-hmm. Et donc, du coup, il y a eu le choc.
Ouais.
Parce que franchement, je n'y attendais pas du tout, quoi. Vraiment.
Ouais. Le choc, sachant que vous aviez un enfant à préserver de cette séparation.
Oui. Oui, oui, oui. Bah ouais. Puis en plus, Héloïse, là, du coup, là, tu vois, elle va avoir 6 ans, mais donc elle allait sur ses 5 ans, elle avait 4 ans et demi. moi, j'ai vécu la séparation. Il y avait aussi peut-être certainement beaucoup de projections de ma part, peut-être. Moi, j'ai vécu aussi la séparation de mes parents. J'avais 3 ans et demi. Je sais que dans mes souvenirs, c'est pas des souvenirs émotionnels, mais c'est des souvenirs concrets. Je sais que j'ai longtemps demandé à mes parents pourquoi ils s'étaient séparés, et ce jusqu'à au moins 12 ans. Donc, je pense que quoi qu'il advienne et la manière dont on fait les choses ensuite, l'enfant reste traumatisé. Enfin, je me suis dit, là, on va traumatiser notre enfant, et franchement, c'est vraiment pas cool.
Non, mais c'est donc, sûr.
Après, il y a d'autres vraies questions qui se posent. C'est, est-ce que il vaut mieux pas un trauma comme ça, et puis peut-être une résilience de l'enfant, ou est-ce que on reste ensemble et en fait on s'engueule et c'est pas le bonheur et c'est pas et il y a un mal-être qui est là latent et l'enfant il est aussi parmi ça. Donc c'est j'ai pas de réponse.
Mais et puis on peut se poser la question aussi de savoir jusque quand on préserve l'enfant et jusque quand enfin et à partir de quand on se préserve nous.
Tout à fait. Et en plus, ça, t'as tout à fait raison, pour le coup, il y a un mélange là-dedans, dans tout ça. Et en plus de ça, je dirais qu'on n'a aucune certitude que l'on préserve l'enfant en restant ensemble, en fait.
Bien sûr.
Finalement. À un moment donné, est-ce que c'est pas tout autant traumatisant, mais un truc un peu genre comme ça, sous le matelas, tu
l'attends,
vois.
L'attends, ouais.
L'attends de rester ensemble sans être. Épanouie, en sentant un truc un peu lourd quoi sur les épaules.
Non mais c'est clair. Et est-ce que tu, enfin je suppose hein, que c'est la première question que, enfin une fois le choc passé,
ouais.
que Héloïse a été votre première préoccupation, non?
Alors ça a été notre première préoccupation, évidemment. Alors moi j'ai dû assimiler les choses émotionnellement. J'avoue que ça n'a pas été facile du tout.
Sans surprise.
Parce qu'il y avait plein de choses, il y avait plein de choses qui se mélangeaient dans tout ça, en fait. Il y a le sentiment certainement d'abandon, il y a les projections qu'on a fait qui se déconstruit. Enfin, tout ce qu'on a construit se déconstruit, et puis surtout, le truc de l'enfant. Enfin, déjà, tes séparations, c'est jamais simple. Que l'on se sépare soi ou de manière commune ou que l'on quitte. De toutes les manières, je pense que c'est quelque chose de compliqué. Ouais. De se séparer, mais quand il y a un enfant, effectivement, c'est une grosse, un gros truc, quoi. Donc oui, passé ça, moi j'étais pas apte. Hein. Très franchement, je pense que en tout cas la première semaine, de mes souvenirs, mais peut-être même les, ça s'est passé fin octobre 2021, enfin genre mi-octobre, fin octobre vers le 20. Je pense que les deux semaines qui ont suivi, moi j'étais pas apte.
Ouais, t'as fait un blackout, quoi.
Oui, émotionnel. Enfin, je veux dire, j'étais en train de pleurer tout le temps. Enfin, c'était l'horreur, quoi. Et après, effectivement, oui. Mais on parlait parce qu'on a fait donc de la cohabitation pendant un certain temps.
Bah oui, parce que voilà, après, quand on habite ensemble et qu'il y a un enfant, bon, ça se fait pas tout de suite.
Ça se fait pas tout de suite. On était mariés. Alors bon, le truc de c'est pas grave. Tu peux toujours t'en aller même si t'es marié. C'est pas le fond du problème. Mais on avait une maison. Enfin, tu vois. Mais oui, on a parlé d'Héloïse et en fait moi comme je perdais pied émotionnellement parce que du coup j'étais très en colère, je suis quelqu'un d'assez tempéré en règle générale, je suis cool, souriante, etc. Là j'étais extrêmement en colère, bon, et pour cause évidemment, ça pétait encore plus et à un moment donné on est arrivé à avoir des discussions en disant bon, là, il faut peut-être qu'on le dise à Héloïse, parce que, et même si en fait on se sépare pas, il y a eu des vraies questions, donc genre, comment on fait? On sait qu'un enfant, un petit enfant, puisque Héloïse avait 4 ans et demi, il a des repères dans le temps qui ne sont pas du tout les nôtres. Pour l'instant, tu ne vas pas partir de la maison comme ça, c'est hyper compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, on a réussi à discuter quand même s'il y avait beaucoup d'émotionnel, évidemment, en tout cas de mon côté, puis certainement du sien, évidemment. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on lui dit pas? Et en même temps, Laetitia me dit, mais peut-être qu'il faut lui dire, parce que là, honnêtement, toi, t'es pas toi-même. et donc, les enfants, ils sentent les trucs. Elle doit bien sentir quelque chose. Elle doit sentir que t'es pas bien, que tu vas mal, que c'est pas normal, quoi.
Ouais.
Donc finalement, on a décidé de lui dire quelque chose comme, je dirais, mi-novembre, fin novembre.
D'accord, oui, donc presque un mois après.
Un mois après, ouais, un mois après, parce que c'était, puis parce que Laetitia, elle partait pas mal de la maison, pour le coup, probablement pour aussi un sas émotionnel et tout ça, et c'était compliqué, et puis il y avait beaucoup de ouais, je te dis, de colère de ma part, d'un point de vue aussi logistique, enfin, c'était un mélange de plein de choses, quoi. Donc on lui a dit. Enfin, moi, j'ai rien dit. C'est Laetitia qui a réussi à porter tout ça. Et puis, c'était. Je pense que ça a été le pire jour de ma vie.
Ouais.
Vraiment. Tu vois, je.
Ouais.
Genre, ça me. Elle s'est effondrée. Je pensais pas, en fait, qu'il puisse piger si vite, quoi.
Ouais, surtout à 4 ans et demi, tu sais pas quelles sont leurs notions des choses, en fait.
Ouais. Alors, on avait lu des
trucs. Ils ont pas de projection, quoi. Enfin, ils ont moins de projection.
Ouais. On avait lu des trucs que les enfants, genre, des fois, en fait, ils font style. Enfin, ils entendent, mais ils comprennent pas, et hop, ils s'en vont, ils continuent à jouer, je sais pas quoi. Et en fait, elle, pas du tout, quoi. On l'a prise sur le canapé. Bon, moi, j'étais. Du moment où on a dit on le fait, moi j'étais émotionnellement, comme on dit en anglais, mess. J'étais vraiment en vrac total. Et je te dis peut-être par rapport à la projection aussi de ma propre histoire, par rapport au fait que on était en train de lui briser son petit monde, quelque part.
Oui, toi tu l'avais vécu, donc tu savais.
Oui, bon, et puis en plus, je l'ai vécu différemment. Là, on fait vraiment les trucs, enfin, je te raconterai du coup, mais donc elle s'est. Elle s'est mise à pleurer tout de suite, quoi, en fait.
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
Laetitia lui a dit, mais tu sais, on s'entend pas, on s'entend plus, on n'arrête pas de se chamailler, etc. Et la seule chose qu'elle a dite, c'est, alors arrêtez.
Mmh. Oui, pour les enfants, c'est simple.
Ouais. Mmh. Et en fait, voilà, l'annonce était faite. Après, évidemment qu'elle a pas suivi les choses, parce que... Donc elle a pleuré et puis la magie des enfants c'est que c'était que 10 minutes après c'était terminé.
Ouais.
Mais l'annonce était faite. Mais je pense que elle a pas compris tout de suite parce que évidemment et ça c'était ce qu'on en avait parlé, c'était qu'il n'y a pas eu d'action derrière très vite. Parce que finalement Laetitia elle est partie de la maison le 1er mars.
Ouais,
il fallait qu'elle trouve un appart, il fallait que ça se fait pas comme ça en deux secondes. Il y avait les fêtes de Noël entre deux. Enfin, c'était bon, on voulait quand même préserver Héloïse de plein de trucs, etc. Donc on a fait de la colocation jusqu'au 1er mars et elle a pas dû comprendre parce que je pense qu'elle a revécu un truc, une espèce de d'annonce le 1er mars, où là, en fait, on a mis en place notre cadre partagé. Ouais. Parce que jusque-là, c'était pas vraiment ça. C'était un truc un peu flou. On essayait. Après que moi, l'émotion vive et extrêmement forte retombe un peu, on a pu réussir vaguement à se parler, parce que ça finissait toujours en fight à la fin, mais certainement de mon fait parce que moi c'était trop violent quoi. Mais on a quand même réussi à prendre des dispositions et comme tu l'as demandé, c'était vraiment dans le regard dans l'idée première d'Héloïse. Tout le reste c'était subsidiaire quoi. C'était on parlera après de divorce, de maison, de comment on fait les choses, comment on sépare les trucs. Vraiment c'était Héloïse notre focus quoi. Et du coup, on a voulu mettre un peu en place une espèce de garde partagée du moment où on avait plus ou moins fait l'annonce. Donc, Laetitia partait pendant 2 jours. Moi, j'essayais de trouver aussi de partir pendant 2 jours pour aller chez des potes, etc. Pour essayer de casser un peu dans son idée le fait qu'on était une famille et qu'on était tout le temps ensemble, même si nous, de temps en temps, moi, je faisais des trucs, Laetitia aussi, mais enfin, voilà, quoi.
Et comment on envisage quand on est une maman, alors peu importe, quand on a un enfant, tout court, quel que soit notre genre, comment on envisage de se séparer de son enfant une fois en garde alternée, quel que soit le rythme de garde, en fait.
C'est difficile.
Bah ouais.
C'est difficile parce que le lien, il est là, hein, évidemment. Donc, les premiers temps, en fait, on ne l'envisage pas, pour répondre à ta question. On ne l'envisage pas, mais on le vit, en fait.
Bah ouais.
Je crois qu'on peut se préparer à pas grand-chose dans la vie. Enfin, je veux dire, on a bien des idées, mais le jour où ça arrive, il faut faire. Et du coup, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Donc, du coup, la première fois que moi, je suis partie de la maison et que j'ai passé mon week-end sans Héloïse et avec des potes, c'est la première fois que je partais si longtemps. Mm-hmm. Un week-end entier, du vendredi soir au lundi matin. Ça fait un peu bizarre. Mais je dois admettre que, en fait, vraiment, véritablement, les choses... Comme pour Héloïse probablement, et certainement comme pour Laetitia, la vraie séparation a été le jour où Laetitia a déménagé le 1er mars. Ouais. Parce que l'esprit, il est fourbe, tu vois, on vivait ça, mais c'était presque, je sais pas, comme peut-être des vacances. Enfin, tu vois, je sais pas exactement comment dire. Concrètement, on était toujours dans notre maison, avec toujours nos affaires, avec toujours quelque part une même dynamique. Moi, je faisais des courses malgré tout, tu vois, et on gardait cette logistique là. Parce que bon, on aurait pu dire ok, on sépare le frigo, mais honnêtement, à un moment donné, Laetitia, elle m'a proposé ça. Parce qu'effectivement, il y avait des énervements de ma part, mais parce que je pense que tout était prétexte à...
Oui, c'était épidermique.
Je pense. Et je lui dis, non, mais on ne va pas faire ça. Enfin, je veux dire, c'est pas possible de faire ça. elle me dit, mais il y a des gens qui le font. Je lui dis, oui, il y a des gens qui le font. Mais moi, très franchement, je peux décemment pas faire ça. On ne va pas faire ça. Non, je ne veux pas ça. C'est pas possible. Comme je l'ai précédemment dit, j'ai une famille qui s'est séparée et ils ont gardé des contacts super. Et même quand j'étais plus grande, on a fait des Noëls ensemble avec mon père, ma mère et mon beau-père. Et ma tante également s'est séparée. Et aujourd'hui, on fait Noël Hanouka parce qu'on est juif avec ses deux maris. Enfin, on m'a montré... la possibilité que ça se passe bien, en fait, et que ça se passe de manière unie et intelligente. Quand les émotions retombent.
Parce qu'au début, voilà.
Au début, c'est compliqué. L'émotionnel, c'est compliqué. Et il fait faire des trucs totalement irrationnels et totalement... Et Letty, même, elle avait même un peu... Elle m'a même dit à un moment donné, j'ai peur de toi. Je lui dis, avoir peur de moi quand même. Mais effectivement, j'étais extrêmement en colère. Et chose que pendant presque 9 ans, parce que ça faisait presque 9 ans qu'on était ensemble, elle n'avait jamais vu, ou très peu, parce que je suis, comme je l'ai dit, assez tempérée, et voilà quoi. Mm-hmm. Donc quand les émotions retombent, j'avais vraiment envie que ça se passe de la même manière que ma famille. Donc l'histoire du frigo, c'était hors de question.
Oui, non mais c'est sûr. Après, bon voilà, essayer de trouver des solutions quand on sent qu'il y a un point de friction, mais c'est sûr que ce n'était pas forcément la bonne.
Non, mais voilà, donc c'était pas évident. Mais je te dis, donc, comment on se sépare ? Parce que pour revenir, je digresse beaucoup, mais pour revenir à ça, les premiers temps, en fait, j'ai pleuré, c'était difficile, et puis après, au fur et à mesure, on apprend. Ça apprend beaucoup de choses, ça apprend. Alors, la confiance entre Laetitia et moi, elle a toujours été là, vis-à-vis de l'enfant. Il y a des couples, peut-être, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai une confiance aveugle en Laetitia et je crois que je peux dire qu'elle a le contraire également. Enfin, le contraire est vrai. Mmh. Et donc, ça apprend encore plus à le lâcher prise de... Ok, ma fille est plus avec moi. Après, je te dis pas, il y a des coups de... Surtout que je pense que l'année dernière, moi, ça a été... même encore des fois maintenant, malgré tout. J'ai eu peur. Peur de me dire, ok, maintenant qu'on n'est plus une famille, si Laetitia venait d'avoir un accident avec Héloïse, je perds tout, en fait.
Ouais, alors,
c'est très con, parce que finalement, en fait, ça pourrait de toute façon arriver, ça n'a aucun sens.
Non, mais bien sûr, mais il n'y a pas de rationalité dans une séparation.
Non, mais c'est des coups de peur que j'ai eus comme ça, et que j'ai encore, des fois. Comme je dis, ça pourrait tout à fait arriver genre quand on est encore ensemble, hein, ce genre de choses.
Bien sûr, bien sûr.
Mais on n'y pense pas, parce qu'on a ce truc d'acquis, peut-être. Alors que là, bah, comme tu sais que tu ne vis plus ensemble et que voilà.
Ouais, t'as moins le contrôle, quoi.
Ben oui, il faut, ça apprend ça, en tout cas.
Ouais, tu m'étonnes. Non, mais c'est clair. Et puis après, bon, je présume qu'il y a des démarches administratives qui sont à lancer.
Oui.
Une fois, je suppose, seulement les émotions retombées. Et il faut discuter de cette garde. Donc, vous avez, dès le départ, essayé de mettre en place de façon un petit peu douce une garde partagée.
Oui, oui, oui. Nous, c'était très, très, très important. Donc, toujours dans l'idée, d'abord, numéro un, Héloïse. Donc, cette garde, déjà, l'idée était déjà plus ou moins faite dans nos têtes quand on faisait de la colocation, c'est-à-dire en novembre, décembre, en se disant « Ok, on veut faire une garde rapprochée, mais vraiment, et alternée. » On s'est pas mal documenté, évidemment, documenté de comment ça se passe, qu'est-ce que conseillent peut-être les psys. On n'a pas forcément été voir un psy, on aurait pu. Par exemple, pour ces conditions-là, tu peux toujours peut-être demander de l'aide un petit peu, mais en fait, on a lu des trucs et on s'est dit que, voilà, pour les petits-enfants, aujourd'hui, en tout cas, la recommandation, c'était celle-ci. Mais après, je pense que la vérité, c'est qu'il faut voir comment tout ça est possible, comment l'enfant le vit aussi, parce que peut-être qu'il y a des enfants qui peuvent être aussi perdus là-dedans. Elle, Héloïse, elle s'est très bien accordée nous, on a décidé que ce serait deux jours, trois jours. C'est-à-dire que, du coup, moi, j'ai les semaines impaires et elle a les semaines paires. Les semaines impaires, moi, j'ai le lundi et le mardi, Héloïse. Laetitia, mercredi et jeudi. Et j'ai le vendredi, samedi, dimanche. Enfin, on parle de nuit, hein.
Oui, ce qui veut dire que vous n'êtes jamais séparés plus de deux jours.
Il y a le 3, voilà. Il y a le 3. Et on met une petite différence pour les vacances. Et là, les vacances, en fait, on fait une semaine. Mais d'accord. Ceci dit, si on était vraiment dans l'écoute de l'enfant, l'enfant nous dit, l'été dernier, qui était notre premier essai, quelque part, hein, parce que on n'avait pas fait l'été dernier, Héloïse nous a dit que c'était trop. Une semaine.
Trop long ?
Ouais.
Ouais. Alors, elle est petite aussi, hein, donc c'est sûr qu'à cet âge-là, je pense que... Non, c'est une très... Enfin, je ne connaissais pas ce mode de garde de 2-3. Enfin, je pense que ça... De toute manière, chacun invente ses règles, hein, j'ai envie de dire,
par rapport à la garde. Oui, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
En bonne entente et en concertation. Mais, en tout cas, je pense que pour le parent, c'est préservant, parce qu'au moins, tu vois ton enfant toutes les semaines.
Oui. Et puis, alors après, tu as évidemment tout le monde y va de son avis et de son commentaire, et parce que c'est bien normal, chacun a son opinion et regarde aussi par rapport à soi ce qui est possible, etc. Mais alors, il y a des gens qui nous disent oui, mais du coup, tu peux pas avoir d'activité hebdomadaire. Oui, c'est pas faux.
C'est vrai.
Ceci dit, si j'en avais une, alors or j'en ai une, mais elle tombe pas dans mes moments de garde. Mais si j'en avais une, genre le sport, tous les mardis, ben je me débrouillerais bien pour trouver quelqu'un qui garde Héloïse pendant ce temps-là. Et puis c'est tout, quoi. Parce qu'on n'a pas nos parents qui sont dans le coin, donc voilà. Mais bon, à part ça. Comme tu dis, en tout cas, voilà, je parle vraiment en ma parole. Peut-être les gens trouveraient les choses différemment, etc. Mais moi, je trouve que c'est très confortable et je crois vraiment que Héloïse le vit aussi de manière très confortable. C'est-à-dire que du coup, moi, je suis pas séparée de ma fille pendant plus de deux jours et je suis hyper contente de la retrouver et puis Héloïse aussi. Voilà.
Ouais. Non mais c'est clair. Franchement, je trouve que c'est judicieux. Alors c'est sûr que ça peut paraître, je pense, un peu haché. Et bon, ça c'est vraiment propre à chaque famille. Mais c'est pour ça que je te disais comment on envisage une séparation de son enfant, parce qu'il y a la séparation du conjoint, mais il y a la séparation de son enfant en tant que maman. Et moi, je sais que si je me projetais, ce serait hyper compliqué.
Bah. Le truc, c'est qu'en fait, tout dépend effectivement de la cellule familiale, de comment... Je suppose, nous, on était vraiment... alors, je vais pas dire la symbiose, mais vraiment la cellule familiale classique. En plus, on n'a pas nos parents ici dans la région. Donc, Héloïse, elle était globalement tout le temps avec nous, quoi. Alors, oui, de temps en temps, chez des copains, mais on est... peu sorti aussi de ce fait-là parce que voilà alors moi j'ai mon beau-père qui est ici, je l'aurais volontiers impliqué plus dans la vie d'Héloïse, parce que je considère que c'est son grand-père. Mais en fait, Héloïse, elle en a peur.
D'accord, donc, ça arrive.
Donc, il est grand, il fait 1m90, il est imposant, il est et je pense que, mais pourtant il est hyper chou hein, avec elle, mais alors maintenant ça va mieux, mais elle en avait peur, etc. Mais sinon j'aurais vraiment impliqué beaucoup plus le papy que l'on voit, hein, mais on voit pareil toujours avec nous, parce que voilà. Donc je pense que de ce point de vue-là, en tout cas moi, ça a été plus difficile la séparation comme ça, mais elle est douce. Elle est douce parce que tous les deux jours, je la retrouve.
Ben voilà, c'est ça, exactement.
Mais ça fait un vide, hein. Ça fait un vide. Je ne peux pas le dire. Ça fait énormément de vide. Ta vie de famille, elle était ce qu'elle était, avec des rires, avec des choses, avec des. Et puis, quelque part, pour moi, en tout cas du jour au lendemain, à partir du 1er mars, je me suis retrouvée dans cette maison énorme pour moi et toute seule tous les deux jours, quoi.
Ouais. Et toi, t'as pas envisagé du coup de déménager de ton côté aussi ?
Alors, si, évidemment, mais ça c'est pareil, voilà, je digresse beaucoup, mais c'est pour revenir sur les démarches, etc. Quand on avait plus ou moins mis en place ce truc avec Héloïse, là Laetitia m'a dit maintenant on divorce.
Ah, oh, punaise. Le coup près, quoi.
Ouais, elle me dit ça en. Je sais pas, en janvier. Ce que j'ai pas dit en fait, c'est que dans toutes nos discussions, et je lui en ai beaucoup beaucoup voulu. S'il y a bien une chose sur laquelle j'ai eu beaucoup de mal, vraiment, parce que bon, j'ai un avis sur les séparations, les choses ça arrive, les gens, ça fait pas de bien, mais c'est des choses qui, enfin, quand on observe le monde, ça arrive tout le temps. Mais en fait, ça faisait 2 ans qu'elle pensait à se séparer.
Ah oui,
et elle m'en a jamais parlé, en fait. Jamais.
Ouais, c'est
vrai. Ouais. Alors, elle dit à peu près, elle me dit c'est difficile de se projeter dans le temps, et je la crois. Ça faisait, elle considérait que ça faisait à peu près 2 ans que ça allait pas, quoi.
Ouais.
Et moi, je lui en ai beaucoup, beaucoup voulu pour ça. Alors, évidemment, elle avait fait un chemin que moi, j'avais pas fait du tout. Alors, elle arrive en me quittant au mois d'octobre, et elle arrive au mois de janvier en me disant bon, on divorce. Wow.
Alors, ouais, c'est clair, laisse-moi 2 minutes atterrir.
Oui. Mais en plus, j'étais pas quelqu'un qui voulait me marier, en plus. Alors, c'est toute l'ambivalence de ma personne, c'était que je voulais pas me marier, et puis que finalement, on s'est marié parce qu'on devait se marier. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on a décidé de, c'est qu'on devait, pour que je puisse adopter, avant la loi bioéthique, pour que je puisse adopter Héloïse, il fallait que nous soyons mariés. Chose aberrante, hein, pour le coup, mais c'était comme ça. Donc, mais le fait qu'elle me demande le divorce, c'est marrant, mais ça m'a quand même fait un gros truc, quoi. Donc, voilà. Et alors, du coup, là, tu me demandais tout à l'heure, mais oui, on doit aller voir un avocat. Et aujourd'hui, en fait, la loi, elle veut que ton avocat... Alors, à une époque, c'était le même avocat. Maintenant, il faut avoir un avocat séparé. Chacune, ouais, exactement. Bon, ce qui paraît, ce qui tombe un peu sous le sens, je trouve. Bon, après, c'est des frais aussi, c'est pareil, ça. C'est des gros frais, le divorce. Et puis, tu parles de la maison, ça va aussi dans ce sens-là. Bon, on vend la maison. Moi, je ne peux pas rester dans cette maison toute seule. Je n'ai pas envie de me séparer de cette maison parce que peut-être que c'est la continuité des choses et que j'aime cette maison et que voilà. Mais il faut bien que je m'en sépare parce que financièrement, pour le coup, je n'ai pas les moyens de garder cette maison. Elle est trop grande pour moi, elle coûte trop cher, etc. quoi. Donc tout ça, l'année 2022, c'est des multiples deuils administratifs. Enfin, t'as l'administratif et puis t'as à chaque fois en fait, il y a quelque chose qui vient
te bousculer.
Oui, bousculer, ouais. Et puis du coup, tu me vois. Alors, les gens qui nous entendent ne me voient pas, mais me voient dans mon nouvel appartement c'est tout récent.
D'accord. Donc, tu as réussi à passer.
Oui.
Par la force des choses.
Par la force des choses. C'était bien obligé. Mais j'avoue que j'ai versé mes dernières larmes sur mes cartons au mois de décembre.
Oui.
Qui était peut-être j'ai refermé la porte complètement d'un bout de vie, quoi.
Oui, mais t'as avancé aussi, parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu étais capable de te dire, maintenant, que tu te sens mieux comme ça.
Oui, tout à fait.
Voilà, et ça, je pense que tout de suite, juste derrière la séparation, c'est pas possible, il faut que tu passes du temps, quoi. Il faut que tu fasses ton chemin.
Ouais, tout à fait. Alors, j'ai fait ce chemin tout au long de l'année dernière avec tout ça. Alors, je t'ai dit, on a mis en place le truc, on a vécu les deuils aussi morcelés, hein, le 1er mars. Je pense qu'Héloïse aussi, elle a eu un coup. Puis maintenant, on est dans un truc un peu régulier. Et voilà. Et donc, comme tout ça est en place, j'ai pu, avec mes émotions qui redescendent, avec le fait de m'habituer à la séparation d'Héloïse, à la séparation de ma vie de famille, à la séparation de tout ça, de prendre du recul, évidemment, et admettre que, en fait, je crois aujourd'hui, je peux te dire que c'est pas Laetitia qui a été le deuil le plus difficile à faire, finalement. C'est assez étonnant, mais c'est plutôt la projection de tout, la construction, comme je l'ai dit tout à l'heure, la famille, peut-être cette injonction au couple, en fait.
Dans notre société.
Ouais, dans notre société, au couple qui dure toujours, etc. Et je me suis posé vraiment plein de questions. Je me suis dit, oui, effectivement, à un moment donné, est-ce que, ce que je disais tout à l'heure précédemment, quoi, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas mieux de se séparer parce que finalement ça va pas, en fait ça va pas, et on vit pas un truc sympa, et on est dans une espèce d'habitude, de lassitude, de et donc oui, du coup ça je peux le dire maintenant, je suis beaucoup mieux. Et je pense qu'Héloïse, alors j'en sais rien, je peux pas te dire si elle est mieux ou pas. En tout cas, les enfants s'adaptent. Je dis pas qu'elle a vécu un moment facile du tout, et parce qu'elle aussi elle a vécu de multiples deuils, mais là elle est hyper contente.
Ouais. En fait, les enfants, ils ont une capacité de résilience qu'on a moins, nous, adultes. Ils passent à autre chose.
Oui. C'est assez fou. C'est assez fou. Alors, je dis pas qu'elle a pas des coups, des fois. C'est parce que c'est compliqué. On lui impose, malgré tout, quand même quelque chose. Moi, j'étais très inquiète de... Quand ça dépend des gens, hein. Mais moi, mon inquiétude, c'était de qu'elles doivent se séparer, en fait, de ces affaires, qu'elles doivent splitter ces affaires, les diviser en deux. Et je me disais, mais c'est pas cool, en fait, vraiment, on lui impose quelque chose. Mais finalement, elle s'en accommode assez bien. Et puis maintenant, on est sur des vraies questions de parentalité, mais de parentalité séparée.
Oui. Et comment ça se passe, est-ce que vous aviez acté par rapport à Héloïse, parce que tu parlais tout à l'heure de garde rapprochée, vous avez acté aussi de comment ça se passerait dans le futur si à un moment donné, enfin tu vois, toi tu as cherché une maison, je suppose que tu l'as cherché le plus proche possible de sa deuxième maman ou peut-être de l'école, enfin en tout cas quelque chose de très proche, comment ça va se passer, enfin qu'est-ce que vous avez acté si à un moment donné, y en a une de vous deux qui a besoin de s'éloigner plus?
Alors, on n'a rien acté du tout là-dessus, et je n'ai pas vu venir cette question.
Pardon.
Non, du tout. Je pense qu'on en parlerait. Mm-hmm. Évidemment, je crois que toutes les deux, on est assez d'accord. On fait un couple aujourd'hui de coparents, je pense, assez extra. Très franchement, je veux pas nous envoyer de la poudre comme ça, mais on regarde exactement dans la même direction, et cette direction, c'est Héloïse.
Ouais.
Évidemment que toi, ta question, peut-être elle porte sur s'il y a quelqu'un d'autre qui vient arriver,
voilà,
dans nos vies, etc.
Là.
Évidemment, et là, en fait, on n'a pas du tout abordé ce sujet, elle et moi, du tout.
Bon, après, c'est encore hyper frais, très sensible, donc évidemment que t'as pas envie d'envisager que l'une ou l'autre, enfin, toi, t'es peut-être pas dans du tout ce schéma-là, elle y est peut-être plus avancée dans le sens où ça fait 2 ans qu'elle y réfléchit, donc ça pourrait arriver à un moment donné. Évidemment que qu'on n'a pas envie de réfléchir à ça.
Alors, moi, je me sens assez prête de rencontrer de nouveau quelqu'un maintenant, mais peut-être que je me fourvoie complètement, parce que je sens bien que je suis quand même relativement émotive.
Mais c'est normal. Hein.
Ouais, depuis donc de l'année dernière, enfin, voilà, toute cette année 2022 et tout ça, je suis assez émotive sur les sujets de séparation, d'amour, de trucs comme ça. Maintenant, effectivement, c'est compliqué comme question parce que l'amour nous fait faire des trucs, mais en même temps, l'amour d'un enfant, Héloïse, pour aujourd'hui en tout cas, c'est toute ma vie.
Mmh. Et ça le sera sûrement toujours en fait.
Et ça le sera toujours évidemment, je sais pas si je serais capable de partir si j'ai rencontré une femme qui me dise viens on s'en va hyper loin. Mmh. Je sais pas parce qu'Héloïse est petite, parce que enfin voilà, tout est envisagé, si peut-être je sais pas l'adolescence est encore différent etc, mais là ce serait difficile.
Bah, ce serait difficile, d'autant que ça imposerait de réfléchir à un autre type de garde, nécessairement, parce que là, c'est facile de faire deux jours, trois jours, quand tu es tout à côté.
Tout à fait.
C'est beaucoup plus compliqué.
Ah oui, non, tout à fait. C'est comme ça qu'on l'a réfléchi. Il était hors de question qu'on aille s'installer. Enfin, voilà, ça, on était pareil. On a regardé dans la même direction. On s'est dit, on ne va pas s'éloigner tellement, parce qu'on veut garder ce mode de garde. Mais... ceci dit, on a quand même envisagé que un peu plus tard le mode de garde bougerait et que peut-être on passerait à une semaine là aux alentours de ses je sais pas 7-8 ans, en lui posant la question aussi, mais on l'a envisagé ça, mais au-delà de ça non, on n'a pas envisagé ça.
Ouais, bon après c'est encore très très récent et puis les sujets, enfin les questions ne se posent pas pour le moment, donc c'est juste que c'est vrai que je pose souvent ces questions-là, notamment dans la coparentalité et si un conjoint arrivait, et c'est vrai que là tu vois forcément la projection elle a été faite et c'est pas dans un contexte douloureux, donc forcément voilà, mais
oui, tout à fait.
On s'interroge, enfin je pense qu'on peut s'interroger et que voilà, en cas de séparation tu te dis mais qu'est-ce que tu es capable d'accepter de ton ex-conjoint au moment d'une recomposition. Et surtout, qu'est-ce que, enfin, tu n'as pas la main en fait sur cette personne qui s'ajoute. Ouais. Je parle par rapport à ton enfant. C'est moi, ça, tout... mon point qui me.
Non, mais alors tout à fait. Alors pour être la plus honnête possible, Laetitia, elle a très vite retrouvé quelqu'un.
D'accord.
Avec qui elle n'est plus d'ailleurs. Et ça a été aussi un vrai questionnement de ma part. Non pas qu'une personne allait prendre ma place. Ça, j'ai jamais. J'ai jamais douté de ça, pour le coup. En revanche, j'ai de nouveau eu peur, pour Héloïse, de me dire, c'est peut-être un peu tôt, enfin voilà, là on vient de lui imposer une séparation, on vient de la traumatiser, même si hop, elle repart, etc. Et comme tu dis, voilà, la résilience des enfants, c'est génial, mais retrouver quelqu'un tout de suite derrière une vie de famille, tout ça, bon, bah, c'est possible, je dis pas, et on peut peut-être faire un gros bout de chemin avec, parce que ça peut se trouver comme expérience de vie, mais ça peut aussi que ça peut être une relation courte, etc. Et moi, j'avais pas envie, en fait, qu'Héloïse, elle s'attache à quelqu'un, enfin, que ça vienne perturber déjà un truc qui était relativement perturbant dans la petite vie d'un enfant, voilà, on lui a cassé tout son monde, elle voulait garder la maison, il y avait plein de trucs, quoi. Elle a dû aussi faire tous les deuils que moi j'ai fait.
Bah, bien sûr. Et évidemment, c'était sa maison de... Enfin, elle a toujours vécu dans cette maison-là.
Ou quasi, parce qu'on avait déménagé, elle avait un an. Donc,
oui, donc elle se souvient que de cette maison.
Oui, donc ouais, c'est compliqué, ces questions, je trouve. La question de se remettre avec, etc. Ceci dit, moi, je parle en mon nom et je suis à peu près sûre, mais peut-être je me trompe, mais je suis à peu près sûre que Laetitia aussi, en l'occurrence. Mais moi, il serait hors de question que je me mette avec quelqu'un qui me demande des choses inconcevables vis-à-vis de mon enfant.
Enfin, bien sûr. Mais après, tu vois, des fois, c'est la vie qui fait que, tu vois, une mutation professionnelle à l'autre bout de la France. Bon.
Alors oui, effectivement.
Après, c'est aussi, ce sera peut-être aussi à cette personne de faire le choix de se dire, bah, si cette commutation ne me convient pas, et, enfin, voir ce qu'elle privilégie en fait.
Eh ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça.
Non,
c'est des questions qui sont compliquées parce que là, ouais, des questions qui sont compliquées. Oui, après, moi, je suis quelqu'un de de très compréhensif. Et là, maintenant, à chaud, je te répondrais que je ne serais pas d'accord, évidemment, mais que bah, je serais peut-être obligée d'abdiquer. Et du coup, ce serait moi qui me mettrais bah, quelque chose sur les épaules, oui, et voilà, en acceptant en difficulté, et pas forcément ma fille, quoi, certainement pas d'ailleurs. Pour le coup.
Oui. Non, mais c'est sûr que tu vas la préserver, c'est évident.
Oui. Ah, je sais pas si c'est évident pour tout le monde, en tout cas, oui.
Ah, je sais pas. Ce sera peut-être l'objet d'une.
Je sais pas parce qu'il y a certains discours de certaines personnes qui disent oui, bon, bah, les enfants, ils suivent et puis c'est tout. Hein. Ouais. Je connais certaines personnes qui disent ça, donc je sais pas.
Bon, je pense que. Enfin, j'ai confiance dans l'humanité, en me disant que je pense qu'on commence à avancer un peu plus dans la parentalité en prenant en compte le bien-être des enfants. Mmh. Je sais
que oui, alors moi aussi. Mais non, voilà. Moi aussi, j'ai confiance en ça. Mmh. Et puis même, les gens qui disent ça sous leurs airs, comme ça, il faut voir derrière aussi ce qu'il y a. Enfin, tu vois, il y a aussi...
Des fois, voilà. C'est un peu, tu sais, le caïd, là.
Exact.
Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup Stéphanie, je crois qu'on a abordé plein de points autour de la séparation, pas simple, et donc je m'excuse d'avoir remué.
Bah écoute, tu vois que c'est quand même malgré tout encore...
Sensible, c'est normal.
Sensible, c'est... Ça pose beaucoup de questions, en fait, ouais. Malgré tout. Et pourtant, je t'ai dit, voilà, je suis hyper contente. Et en plus, on est un super couple de coparents. Vraiment, on boit même aujourd'hui. Hein, alors, c'est assez récent, mais depuis cet été, on boit des cafés ensemble. Et dimanche, Héloïse, c'était pas le top et elle voulait quelque chose. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que t'es chez toi? Je devrais passer prendre un truc. Parce que je sentais que c'était un peu lourd pour Héloïse. Et puis, elle me dit, non, mais ok, mais venez manger. Et puis du coup, on est passé manger. Héloïse, ça l'a refaite. Et voilà quoi. Oui, je pense. Et puis j'ai une copine qui m'a dit, mais t'es sûre, c'est pas difficile la séparation, etc. Et au contraire, en fait, du tout. Elle était hyper contente. On a mangé 45 minutes chez Laetitia. Et après, on est parti. Elle m'a pas fait d'histoire, rien du tout. Et alors, je sais pas si c'est parce qu'on s'entend bien, que sa jauge, elle est remplie parce qu'elle nous voit tous les deux jours. Je sais pas. Mm-hmm. Mais en tout cas, elle a l'air de. Vive le truc, voilà, elle s'y est faite. Alors après, je te dis pas, elle veut toujours des fois qu'on se retrouve, hein. Vraiment.
Oui,
elle
le sent. Évidemment, comme tout enfant.
Voilà.
Et je pense qu'elle le voudra et qu'elle l'envisagera jusqu'à très tard dans sa vie.
Ouais, il y a des chances, peut-être, ouais.
Mais ça, c'est complètement normal. En tout cas, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que vous avez réussi votre séparation. J'ai bien conscience que l'enregistrement aurait été tout autre. Si vous étiez plutôt en froid ou en tout cas que tout était très épidermique, évidemment. Et que les discussions étaient difficiles, clairement, je pense que le fait que vous fassiez passer Héloïse en priorité, ça joue aussi beaucoup sur la façon dont vous vivez cette séparation et dont elle se mène.
Ouais, je pense que tu as certainement raison. Disons que ouais, moi j'ai vraiment essayé de alors, je te dis pas, mon ego, il a été évidemment. Bien mâché, mais du coup, le fait d'avoir en ligne de mire Héloïse et son bien-être et de la préserver au maximum, parce que c'est ce qu'on avait fait dès lors qu'elle est née, ouais, ça nous a certainement aidé, ouais. Et puis Laetitia avait vraiment cette volonté de me dire, mais tu vois, moi je pensais pas ça comme ça au début, moi pour moi les séparations, les gens ils se parlaient plus, machin, et elle me dit, mais ta famille m'a montré que c'était possible et j'ai vraiment envie que ce soit comme ça, toi et moi, quoi. Et je lui dis, mais ça le sera. Il faut juste que la pilule, elle passe, mais ça le sera, parce que j'envisage pas les choses autrement. Ouais. Et y a fort à parier que d'ici quelques années, peut-être, ou même plus proche que quelques années, peut-être le Noël prochain, ou peut-être Noël dans 2 ans, on fasse quelque chose ensemble, parce que avec la famille, etc. Parce que je trouve que c'est chouette.
Ouais,
parce qu'on peut pas annuler on a vécu ensemble pendant presque 9 ans, on s'est aimés, on a construit des trucs, alors ok, on se sépare pour notre bien-être, pour le bien-être peut-être de tout le monde, mais ceci dit, il y a toujours un petit quelque chose qui reste quand même, je veux dire, elle c'est la mère de ma fille. Enfin,
mais elle sera liée à toi à vie, ouais. Nécessairement, c'est la mère de ta fille.
Exactement, et elle m'a donné le plus beau truc de ma vie.
Clairement. Et c'est sûr que... c'est... Alors, évidemment, on en rêve hein, de ces séparations qui se passent bien et qui permettent de continuer à voir l'autre personne sans le côté amoureux. Ça, c'est vraiment idéal. Et clairement, vous êtes en train de le mener. C'est génial.
Mais alors, peut-être que je me dis, après réflexion, qu'effectivement, l'amour était plus là et que... Enfin, si tu veux, si j'ai réussi, à passer... si vite, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, c'est vite !» Après, je ne sais pas, il n'y a pas d'échelle.
Non, il n'y a pas de...
Ouais. C'est chacun et chacune, pour qui c'est différent, quoi. Mais je me dis... En tout cas, il n'y a pas d'amour blessé.
Oui.
C'est-à-dire, il n'y a pas de haine. Il y a peut-être eu.
Voilà, je pense que tu as fait le travail.
Mais elle est vite partie, en fait, parce qu'il y avait d'autres choses plus importantes.
Voilà. Oui, c'est ça. Tu as fait la part des choses.
J'ai essayé, en tout cas.
Ouais. Mais je te remercie beaucoup vraiment de m'avoir partagé votre histoire et votre histoire de séparation. Je pense que tu vas en rassurer beaucoup parce que oui, c'est pas simple une séparation, c'est douloureux. C'est douloureux pour tout le monde, hein, pour tous les protagonistes, quel qu'il soit, que ce soit celui qui part ou celui qui reste, que ce soit l'enfant. Ça reste un moment douloureux, fait de plusieurs deuils, les uns après les autres, comme tu en as parlé. Et on s'en sort. Et c'est ça, en fait, qu'il faut garder en tête. C'est qu'on s'en sort et que parfois, on peut même se rendre compte que finalement, c'est mieux comme ça.
Oui, c'est un bon résumé. Je pense qu'on se sort toujours de tout. Alors après, ça dépend du temps. Tout est une histoire de temps, de toute façon. Mais oui, on s'en sort. Et, j'ai pas envie de donner des leçons parce que je trouve que c'est pas simple, les émotions, gérer ses émotions, etc. Mais c'est vrai qu'essayer de se dire que... je sais pas, que c'est quand même plus chouette. Moi, je trouve ça chouette qu'on puisse boire un café maintenant ensemble et qu'en fait, on ait gardé ce qu'on avait. Ouais. Parce que on était toujours en discussion, on regarde la vie de manière assez similaire et on partageait beaucoup de choses. Et en fait, je trouve qu'on les partage toujours, finalement.
Exactement. Exactement. C'est... En fait, je pense que c'est votre force aussi, c'est que vous avez réussi à mettre de côté les points durs pour conserver ce qui vous tenait, en fait.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, finalement, on est mieux l'une sans l'autre, en fait. Mais en étant toujours l'une avec l'autre, hein, tu vois, c'est
oui,
quelque part.
Oui,
on se parle, bon, pas tous les jours, mais hyper régulièrement. Le sujet, souvent, enfin, c'est pas souvent, mais c'est de manière extrêmement récurrente, c'est Héloïse. Et ceci et cela, des trucs assez logistiques aussi, des histoires de d'argent, parce qu'évidemment, dans la convention de divorce, on a mis tout noir sur blanc, parce que ça doit se faire comme ça. Et puis, on considère que c'est correct de toujours diviser par deux les choses qui concernent Héloïse, etc. Voilà, l'autre jour elle a acheté une tenue de ski, moi je lui ai dit écoute c'est un peu cher, voilà, je participe quoi, donc des trucs comme ça, puis des trucs encore de divorce parce qu'on est encore des fois dans l'administratif, le divorce a été prononcé le 7 novembre mais là il y a des histoires d'impôts, tout ça, enfin voilà, donc on se parle
de toute manière, le contact est forcément maintenu, mais vous avez quand même réussi à garder l'amitié tout en laissant l'amour, en fait.
Oui. C'est un bon résumé.
Je te remercie beaucoup, Stéphanie.
Je t'en prie, j'ai beaucoup parlé.
C'est normal, c'était le projet.
Ouais.
Et puis, je te dis à très bientôt.
Eh bien, écoute, pareil.
Nous voilà rendus dans une nouvelle période entre deux quinzaines de congés scolaires. Je me rends compte que les sorties des épisodes sont tout de même étroitement liées au calendrier scolaire. Ça doit être ça d'être une mompreneur. Je vous ai laissé la semaine dernière avec les épisodes de la Saint-Valentin, pour lesquels j'avais eu beaucoup de retours positifs concernant leur utilité. Et pourtant, les écoutes n'ont pas été au rendez-vous. Aucun jugement de ma part, je sais que l'on fait bien ce que l'on peut, quand on peut. Mais je suis inquiète de ne pas m'enliser dans une programmation trop récurrente, et me demande si je ne loupe pas un créneau qui m'inviterait à me renouveler. Je dois lancer d'ici peu, pour l'anniversaire de la loi du mariage pour tous, les enregistrements des demandes en mariage. Je vais mettre en place des sondages sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, pour savoir si oui ou non je relance cette série-là et vous inviter à me proposer votre participation. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez aussi du podcast. Je profite de cet espace pour vous annoncer que je dois participer à l'émission Historify en direct sur la radio locale de Bordeaux, O2, le mercredi 8 mars de 19h à 20h. Si cela vous dit de m'écouter parler de notre parcours, vous pouvez m'y rejoindre. Je me permets de vous redonner, comme à chaque fin d'épisode, les possibilités qui s'offrent à vous pour soutenir le podcast. Bientôt, j'aurai une proposition de plus à vous faire, je travaille dessus activement. Pour le moment, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de lui donner plus de visibilité. Partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.